Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, nous parlons d'histoire, d'approche historiographique et notamment de l'Empire islamique avec l'historien Gabriel Martinez Gros.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour professeur, c'est vraiment une grande joie. Je puis vous assurer que j'ai lu avec intérêt votre dernière monographie et je suis ravi et je sais que les auditeurs vous en sauront gré parce que votre ouvrage est très, très édifiant. Vous êtes Gabriel Martinez Gros, professeur émérite à l'université Paris-Ouest Nanterre, professeur d'histoire du monde arabe et du monde islamique. Voilà. Et vous avez dirigé l'ISM, qui est l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Vous avez co-dirigé cet institut avec Lucette Valency.
Il y a quelques années déjà.
C'est parce que vous avez commencé tôt, voilà. Gabriel Martinez Gros. Votre ouvrage sur l'Empire islamique. Alors, l'Empire, pourquoi au singulier, puisque à travers l'histoire, des empires se sont succédés. Ça, c'est peut-être l'idée de l'Imperium. Donc, c'est,
absolument.
À un moment donné, il y aurait eu un empire monde, si on se réfère à la dynastie abbasside. Et donc, la capitale de cet empire monde était Bagdad.
Absolument. Le concept d'empire peut être précisé assez largement. Un empire, c'est précisément un monde. L'Empire est son propre monde, c'est-à-dire que l'Empire n'a pas de voisins, à la différence de nos nations, dont chacune sait qu'elle n'est pas seule au monde. Les empires sont, dans une large part, à leurs propres yeux bien entendu, les seuls dépositaires de la véritable civilisation, de la véritable humanité, de la véritable douceur de vivre. Et donc, il n'y a eu que quelques empires, parce que seules quelques entités dans l'histoire ont pu prétendre à cette forme d'arrogance aussi, il faut bien le dire, bien ça va de
d'autant
soi.
D'autant plus qu'on souhaite, on veut et on œuvre à élargir ou à agrandir les frontières.
À accueillir les malheureux qui ne disposent pas encore des bienfaits de l'Empire. C'est l'Empire romain, c'est l'Empire chinois, c'est l'Empire islamique. Et puis à côté du grand Empire islamique, celui dont j'ai tenté de faire l'histoire dans ce livre, entre 7e et 11e siècle, les empires islamiques successeurs, si j'ose dire, c'est-à-dire fondamentalement l'Empire ottoman à l'ouest et l'Empire moghol, l'Empire des musulmans indien à l'Est, qui sans doute entre le 16e et le 18e siècle est la plus grande formation islamique et un des plus grands empires du monde avec la Chine.
Et entre les deux, l'Empire Safavide. Que nous n'oublions pas.
Que nous n'aurions garde d'oublier.
Cher Gabriel Martinez Gros, ce qui, personnellement, a supposé que je donne mon avis d'emblée comme ça, m'avait intéressé, c'était cette réflexion sur l'histoire, d'une manière générale. J'ose même parler d'une épistémée de l'histoire, l'approche historienne, la vocation de l'historien, et même l'entrée dans l'histoire de l'humanité en tant que telle.
Il est assez clair qu'en général, et même en détail, toujours l'historien est le fils de son temps, mais il ne le dit jamais. D'abord parce qu'il ne sait pas ce qu'est son temps et que, en général, sa fonction n'est pas d'analyser son propre temps, mais un temps du passé lointain dont il fait l'histoire. Et donc, il fait l'impasse, il se dispense de dire à son lecteur, comme on disait dans les années 70, d'où il parle, c'est-à-dire quel est le socle de pensée et presque de sensibilité qui anime son discours, qui anime sa réflexion intellectuelle. Alors j'ai essayé de le dire, voilà.
Si j'ai bien compris, c'est qu'il y a une réflexion sur les fondements même de la philosophie de l'histoire, si je puis dire, d'une part, et d'autre part, c'est cette idée que l'historien étant le fils de son temps, a une investigation sur l'objet ou l'ère AIRE,
oui,
mais
oui.
Aussi l'ère ERE,
oui, oui.
De sa recherche, mais avec les outils, la psyché, la langue qui est la sienne.
Absolument, et je ne suis pas le premier à le remarquer, mais j'y insiste peut-être un peu plus sévèrement que d'autres. Il y a une nécessaire incompréhension d'une partie de ce que dit l'époque dont on fait l'histoire chez l'historien, sans quoi il répéterait purement et simplement son document. Pour qu'il invente à partir de son document une autre interprétation de l'histoire que celle de sa source, il lui faut négliger une partie de sa source et insister au contraire sur certains des aspects de sa source qui l'intéressent lui particulièrement, l'historien, tout simplement parce que ces aspects de sa source font écho dans son propre monde. Et l'historien ne peut parler à ses contemporains que ce dont il parle, c'est-à-dire ce lointain passé, fait écho dans leur monde à eux, l'historien et son lecteur.
Oui, et le fait même d'avoir cette projection presque psychologique sur une période, un pan de l'histoire, c'est son interprétation. Un autre historien aurait eu une autre interprétation de ces faits.
Oui, probablement, et surtout une autre époque d'historien, c'est-à-dire une autre génération. Il est assez clair que chez les historiens, j'ai vécu assez longtemps pour le deviner déjà, les années 70, par exemple, ne voyaient pas ce que nos années à nous voient. Hein. C'est très spontanément, parce que je suis un historien qui a été formé dans les années 70, je n'ai pas commencé si tôt, malheureusement. Le changement climatique n'est pas parmi, par exemple, ou l'écologie, ne sont pas parmi les données immédiatement perceptibles, immédiatement utilisables, que je vais convoquer. Un de mes amis, qui est pourtant presque de mon âge, me l'a fait remarquer à propos d'un précédent ouvrage sur l'histoire des empires. Il était largement question de la démographie, un peu comme dans ce livre déjà aussi. Il y était moins question des changements assez minces au total, hein, mais importants du climat dans l'histoire, hein, à l'intérieur des 5000 petites années de l'histoire. Voilà. D'une génération à l'autre, et nous vivons assez longtemps pour mesurer ce passage des générations aujourd'hui, d'une génération à l'autre, les interprétations se modifient presque insensiblement. Hein. Il y a quelque chose d'inconscient dans ce travail de l'historien, et c'est ce que j'ai essayé de rendre conscient.
Je ne pensais pas que j'allais convoquer tout de suite l'historien Ibn Khaldoun à ce stade de l'émission. C'est vous qui dites à propos de cet historien que de nos jours, on aurait parlé de gain de productivité, mais lui, il parle de ramification.
Voilà. Alors, parlons effectivement immédiatement d'Ibn Khaldoun.
1432-1406,
d'abord, précisément, c'est-à-dire, du point de vue que nous venons de dire, il vient très tard dans l'histoire de l'islam dit classique, de l'islam dit médiéval. On a toujours tendance à faire de l'islam un bloc. Or, l'islam, bien entendu, a connu précisément des siècles, des générations, des ères différentes. Et lui vient dans une ère, dans une sensibilité tout attachée, il faut bien le dire, à la notion du déclin. On a souvent dit à propos d'Ibn Khaldoun, mais ce n'est pas parce qu'une idée est souvent répétée qu'elle n'est pas juste. Celle-là l'est indiscutablement. Ibn Khaldoun, quand il mesure les grands siècles de l'époque abbasside dont je fais l'histoire et dont lui-même évidemment a fait l'histoire bien avant moi, pense que ce sont des siècles d'apogée et que l'époque que lui est en train de vivre relève de l'ordinaire des temps, non pas de la fin du monde, hein, mais d'une sorte d'ordinaire gris et morose, hein, des temps qui ne sont plus ceux de l'exaltation des premiers siècles. Et puis, alors, il essaye évidemment. Évidemment, pourquoi il faut le dire, hein, la morosité de son temps, c'est d'abord la peste. Hein. C'est-à-dire que le monde est littéralement dévasté par cette pandémie qui le suit tout au long de sa vie. Hein. La peste arrive à Tunis en 1348, puisqu'il y est né, il a alors 16 ans. Et elle le suit jusqu'au Caire en 1406, où il meurt. La décennie de la première moitié du XVe siècle est une des pires dans l'histoire de l'Égypte du point de vue des coups et des répliques de l'épidémie. Et probablement, c'est la peste qui explique l'intérêt extraordinaire, parce que c'est extraordinaire chez les historiens du Moyen-Âge et même des temps modernes, qu'Ibn Khaldoun porte en effet à l'économie, à la société, non pas seulement au pouvoir, mais au rapport du pouvoir avec l'économie et avec la société. C'est-à-dire que pour qu'un pouvoir fonctionne, et il y faut de l'impôt. Il y faut par conséquent un rassemblement de richesses qui est possible lorsque la population existe. Parce que si la peste l'abat, plus rien n'est possible. Ibn Khaldoun explique que c'est grâce au rassemblement d'un capital primitif par le biais de l'impôt que se constitue la ville, et c'est dans la ville que se multiplient les compétences et les ramifications du travail qui permettent en effet les gains de productivité. En un mot, et pour reprendre un exemple que je donne assez souvent, dans les campagnes, tout le monde fabrique ses propres objets de bois. Dans les petites villes, il y a des menuisiers. Et dans les grandes villes, il y a des charpentiers, des ébénistes, des imagiers. C'est-à-dire que peu à peu, le rassemblement du capital et le rassemblement des hommes, la multiplication des compétences en un lieu déterminé, qu'on appelle la ville, et la ville capitale surtout, fait que les métiers se multiplient et par conséquent, les gains de productivité se font.
Voilà un exemple d'un discours ou d'un vocabulaire d'une période qu'on projette sur une autre. C'est le gain de productivité,
bien sûr,
etc. que n'utilisait pas Abdelrahman Ibn Khaldoun lui-même. Mais comme vous en parlez avec passion, si vous nous faites la promesse de revenir un jour pour lui consacrer une émission ad hoc, eh bien nous parlerons d'Abdelrahman Ibn Khaldoun d'une manière exclusive. D'autant plus qu'il parlait aussi de la peste comme étant une des raisons qui a vu disparaître les êtres humains, certes, mais davantage les savants, les hommes du savoir, etc.
Absolument.
Et donc c'est une des raisons du déclin ou du fait que les civilisations sont cycliques, certes, mais celle-là, ça a précipité un peu le déclin par le départ ou la mort des hommes de connaissance et du savoir. Gabriel Martinez-Gros, toujours dans ce début d'entretien à propos des interprétations des faits historiques, j'ai relevé dans votre ouvrage cette anecdote très parlante d'un juge de Cordoue, assurément qui parlait arabe, puisqu'on est à une période
oui,
où les Andalous, les Omeyades y sont, on ne parle pas encore du califat d'Occident. Et ce juge arabe, parlant arabe, se fait interpeller par un justiciable dans une autre langue, qui est probablement le roman.
Oui.
Et alors, ça a donné lieu à, ou du moins cette petite anecdote, à deux interprétations différentes.
Voilà, voilà. Alors c'est une anecdote qu'on trouve dans le livre des juges, le Kitab Troudat Bikultouba de Khushani, un auteur du Xe siècle. Un justiciable, en effet, qui est le père d'un des favoris du calife et qui est visiblement d'origine romane, qui n'est pas d'origine arabe, interpelle dans probablement la seule langue qu'il connaît, c'est-à-dire en langue romane, un juge lui demande de juger une affaire qui lui paraît urgente et le juge lui répond que il n'a pas le temps, qu'il est en train de rentrer chez lui, que c'est l'interruption de la mi-journée, mais qu'il reprendra dans l'après-midi et qu'il le verra dans l'après-midi. Une anecdote qui apparemment n'a pratiquement aucun sens dans une chronique très courte qui attire immédiatement l'attention parce que les choses qui n'ont apparemment aucun sens en ont un. En fait, on raconte rarement une anecdote pour le plaisir de ne lui donner aucun sens. Et donc le sens, il est très simple. Hein. Nous sommes, l'auteur qui est contemporain du rétablissement du califat de Cordoue au profit des Omeyyades place cette anecdote au IXe siècle, un siècle auparavant. Et l'anecdote veut dire, il n'est pas encore temps de parler l'arabe, c'est-à-dire de parler la langue claire du califat. Le temps n'est pas encore au califat. Et pendant le temps que le califat est caché, c'est-à-dire la langue arabe doit rester cachée au profit d'une langue que le texte ne définit pas comme une langue romane, mais simplement comme arajami, c'est-à-dire la langue étrangère, la langue non-arabe. Voilà. L'essentiel n'est pas qu'on parle une langue romane ou qu'on ne la parle pas. L'essentiel, c'est qu'on ne parle pas l'arabe. Hein, et on ne parlera l'arabe que lorsque le califat aura été rétabli un siècle plus tard, au milieu du Xe siècle. Voilà le sens de l'anecdote pour l'auteur. Voilà le sens de l'anecdote telle que je l'ai exhumée lorsque je faisais ma thèse. Mais lorsque ce texte est traduit en espagnol au début du XXe siècle, on ne comprend plus rien. Et ce qui est plus important, et là nous revenons à ce que nous disions, on ne veut plus rien comprendre. Hein ? C'est-à-dire que ce qui intéresse les auteurs espagnols, l'auteur espagnol, en l'occurrence Ribera, qui traduit ce texte, c'est précisément que à Cordoue, au Xe siècle, on peut s'adresser à un juge qui appartient à l'élite arabe de la société, dans une langue qui visiblement, dit-il, est le roman, alors que le texte ne le précise pas, et que le juge arabe comprend. Et donc, la langue naturelle de la société, on le voit bien, c'était la langue romane. Ces gens étaient déjà des Espagnols. Et évidemment, si les textes sont en arabe, c'est parce que les textes ne concernent qu'une toute petite élite, exactement comme la plupart des textes de l'Algérie coloniale sont en français, alors que la langue de l'immense majorité de la population, c'était l'arabe.
Mutatis mutandis.
Mutatis mutandis. Mais cette interprétation est tout à fait caractéristique de l'interprétation historienne, en ce sens qu'elle mutile complètement la vision du texte, et en ce sens qu'elle pose des problèmes que le texte ne se pose pas, parce qu'il faut bien le dire, la société du Xe siècle n'est pas une société démocratique, et par conséquent, on se moque éperdument de savoir quelle est la langue de la majorité. L'auteur du texte arabe se moquait éperdument de savoir quelle était la langue de la majorité, et même la religion de la majorité. Ce ne sont pas les majorités qui comptent. En revanche, au début du XXe siècle, ce sont les majorités qui comptent, parce que vous êtes entré dans un monde démocratique. Et vous voyez comment fonctionne l'historien. C'est-à-dire que nécessairement, il amène dans sa source à peu près la totalité de ce qu'il éprouve lui-même, du monde dans lequel il vit. Et j'utilise, je crois, à la fin de mon introduction, la métaphore du tableau de Velázquez, les Ménines, où Velázquez est au premier plan. En principe, c'est un tableau royal. Vous savez que le roi avait interdit à Velázquez parce qu'il était trop vieux. Le roi, il se jugeait trop vieux, il se jugeait trop moche. Il avait interdit à Velázquez de faire son tableau, de faire son portrait, il en avait assez. Et donc Velázquez fait les Ménines, c'est-à-dire un tableau où lui, Velázquez, qui a à peu près le même âge que le roi, est au premier plan, et le roi, avec la nouvelle reine d'ailleurs, en reflet dans un miroir à peine ébauché. L'historien fait pareil, il est toujours au premier plan, c'est lui qui fait le tableau, mais il est toujours au premier plan, et l'objet du tableau est simplement dans un miroir, sous la forme d'un reflet à peine ébauché.
Alors, est-ce que, en vous écoutant, je comprends bien ou pas du tout le fait que vous poursuivez en disant que finalement l'histoire progressive est un dévoilement?
Voilà. L'histoire dans laquelle nous avons vécu depuis deux siècles, surtout, a été conçue par les historiens eux-mêmes comme un dévoilement, c'est-à-dire que nous ne savons pas, c'est la vieille formule hegélienne, nous ne savons pas ce que nous faisons. Napoléon ne savait pas ce qu'il faisait, et c'est seulement à l'extrémité du jour, au crépuscule, que la chouette, c'est-à-dire l'intelligence de Minerve, se lève. Et c'est seulement à la fin de l'histoire qu'on comprendra ce qu'a été le sens véritable de l'histoire. C'est donc un dévoilement, une apocalypse, au sens...
Révélation.
Une révélation, voilà. Or, cette histoire exige que nous allions sans cesse vers un futur inconnu. C'est-à-dire que nous ne comprenions rien. C'est une des apories, un des paradoxes énormes de cette histoire moderne. C'est que, a priori, c'est comme dans une tragédie, vous savez le sens de cette histoire, alors que ceux qui sont en train de la vivre ne la savent pas. Il y a quelque chose d'extrêmement tragique, c'est comme dans Macbeth ou dans Britannicus, vous savez ce qui va arriver à la fin, la terrible fin, bien sûr, les acteurs ne le savent pas, les personnages ne le savent pas, et le plaisir que vous tirez vient de ce que les acteurs ne le savent pas, que les personnages ne le savent pas, c'est-à-dire qu'il y aurait possibilité que la tragédie soit évitée, mais vous savez que la tragédie va arriver. Je prends quelques exemples. Et voilà,
c'est à la fois tragique, mais aussi pathétique, parce que eux le vivent. On fait une projection. Alors, ils le vivent, mais nous autres, avec le temps, on sait, on connaît la fin.
Et on connaît la fin. Mais ça vaut pour nous. Et nous le savons bien. C'est-à-dire que probablement nous ne savons pas dans cette conception progressive de l'histoire, bien entendu. Probablement nous ne savons pas ce que nous vivons, mais d'autres après nous le sauront. C'est-à-dire que nous nous intéressons probablement aux mauvais problèmes, et certains dans 100 ans vont nous dire, voyons, ils se préoccupaient de tel ou tel problème, de l'écologie ou de je ne sais quoi d'autre, alors que le véritable problème était ailleurs.
C'est un peu, mais je ne sais pas si mon exemple est bon ou pas, comme celui qui rêve et qui ne sait pas qu'il est en train de rêver, mais il ne le réalise qu'après son réveil.
Voilà, absolument.
Absolument.
Je passe à autre chose, Gabriel Martinez-Gros. C'est lorsque vous parlez que le vrai défi du djihad, c'est le changement de régime d'historicité. Ça nécessite explication. Bon, on va passer très vite sur le sens de djihad étymologique,
oui,
en tout cas, qui
oui.
ne veut pas dire guerre sainte,
oui, oui.
mais effort, même s'il y a eu une collusion entre cet effort et la violence sacrée, mm-hmm. d'abord. Mais alors, pourquoi dites-vous que le vrai défi du djihad est le changement de régime d'historicité?
Alors, je reviens rapidement sur cette notion de régime d'historicité qui a été mise en avant par deux excellents historiens, un Allemand, Rainer Koselleck, et un Français, François Hartog, dans les années 90. Hein. C'est très simple hein, au total. Le régime d'historicité, c'est la façon dont nous voyons le passé, le présent et l'avenir. Hein,
Cette approche séquentielle,
absolument. Et on peut dire que pendant des millénaires, hein, à partir de du premier millénaire avant notre ère, lorsque nous avons des textes, en tout cas, qui nous en parlent, le passé a été le parangon et le modèle de l'histoire humaine, c'est-à-dire que c'est d'après l'âge d'or d'un passé lointain qu'on se dirigeait. Je donne toujours cet exemple parce qu'il est tout à fait caractéristique. Montesquieu, qui n'est pas n'importe qui tout de même, un homme bien informé et particulièrement intelligent, au milieu, encore 1749, donc au milieu du XVIIIe siècle, donne 1 milliard d'habitants à l'Empire romain. 1 milliard d'habitants à l'Empire romain, on sait aujourd'hui que la totalité de la population mondiale aux alentours de notre ère, c'est environ 250 millions d'habitants. Hein. Et donc l'Empire romain en faisait, ce qui est déjà colossal, entre 50 et 60 millions, c'est-à-dire 20%, hein, 20% de l'humanité. C'est énorme, il y avait un seul autre empire de l'autre côté du monde à cette époque-là, c'était l'Empire chinois, dont la population était à peu près comparable. Et ces deux empires, à eux deux, rassemblaient la moitié de la population de l'humanité.
De l'humanité. De l'époque, qui est le village terrestre habité.
Voilà. Et donc, c'est le passé. Pourquoi 1 milliard d'habitants? C'est parce que ça veut dire, hein, c'est une manière de dire, nous ne les atteindrons jamais. Hein, nous n'arriverons jamais à 1 milliard d'habitants. Hein, parce que le monde de Montesquieu, c'est à peu près 600, 700, 800 millions, entre 700 et 800 millions d'habitants à peu près, hein, au milieu du XVIIIe siècle. Ils nous dépassent de loin, et ils nous dépasseront toujours de loin. Nous sommes des nains portés sur les épaules de géants, et à peine portés sur des épaules de géants, parce que ces géants sont en ruine. Enfin, l'héritage de ces géants est en ruine.
C'est ce qui nous permet de voir loin.
C'est ce qui nous permet, dit-on, dès le Moyen-Âge, en effet, de voir loin. Et puis, presque brutalement, une génération après, tout a changé. Hein, et ça, vous le trouvez déjà chez Tocqueville, et des gens comme Koselleck, qui a beaucoup travaillé, Reinhard Koselleck, cet historien allemand qui a beaucoup travaillé là-dessus, le confirme. Hein, entre 1760 et 1800, peut-être 1770, le règne de Louis XVI, enfin peu importe, le rapport au temps se retourne complètement, et les élites, bien entendu, européennes, bien entendu, mesurent que il y a là un monde qui s'ouvre, dont on peut faire mieux, peut-être, que l'Antiquité. Je dis encore peut-être. Il y a un monde de science, il y a un monde de connaissances. Alors là, depuis Newton, bien sûr, depuis les grandes avancées scientifiques du XVIIe siècle, depuis la dynamique, depuis Galilée,
et la révolution
Kepler,
industrielle.
Et puis avec le début de la révolution industrielle, avec le début de la chimie, il y a là un monde qui s'ouvre et l'intendant, c'est-à-dire le préfet hein, de l'Ancien Régime, qui en 1750 était essentiel destiné à maintenir l'ordre et à lever l'impôt, devient un entrepreneur de travaux publics. Il commence à creuser des travaux, à creuser des canaux, à ouvrir des routes, à construire des villes, etc. Hein. Et pourquoi ? Mais, tout simplement parce que le régime d'historicité a changé. C'est-à-dire que on croit mesurer désormais que l'avenir sera meilleur que le présent. Et que le présent est peut-être déjà finalement meilleur que ce passé qu'on exaltait tant. Et nous sommes encore aujourd'hui, ou plutôt nous sommes à la fin de ce régime d'historicité, c'est-à-dire ce régime dans lequel le progrès paraît une évidence. Hein, bien entendu, il y aura plus d'hommes sur la Terre dans 50 ans qu'aujourd'hui. Bien entendu, il y aura plus d'activités industrielles, bien entendu, il y aura plus de richesses dans 50 ans qu'aujourd'hui. Dans 50 ans peut-être, dans 100 ans non. Hein, voilà. C'est-à-dire que nous sommes en train de basculer d'un monde à l'autre, et nous sommes, et chacun le ressent bien, hein, quand vous faites des enquêtes d'opinion désormais sur ces sujets, les réponses de la majorité des gens sont assez claires, c'est-à-dire qu'ils sont à peu près sûrs que leurs enfants ou leurs petits-enfants ne vivront pas mieux qu'eux. Hein. C'est-à-dire que ce régime de l'amélioration constante, cette croyance dans l'amélioration, dans le progrès constant de l'humanité est en train de disparaître. Et probablement, l'apocalypse écologique en est la traduction, disons, flamboyante. Hein. La preuve que nous ne progressons plus, c'est que nous régressons, c'est que nous conduisons le monde à la catastrophe, etc. Voilà.
France Culture, question d'islam, Khaled Bencher.
Aujourd'hui, nous parlons de l'empire islamique dans son sens le plus large. Quand est-ce que ces idées d'empire ont-elles commencé? Parce que les hommes sont des hommes, ils veulent être des monarques. Voilà, il y a une religion qui veut s'étendre au-delà des frontières de la péninsule arabique, mais il y avait ce fanatisme de vouloir propager la foi et la parole de Dieu, ou très tôt une volonté de gouverner le monde.
C'est quand même, il y a très peu d'empires, hein, on l'a dit, dans le monde, très peu d'exemples d'entités impériales, parce que la réalisation de ces entités est très difficile et que leur maintien est très difficile. L'empire islamique est un des 3, 4, 5 exemples d'empires véritables que nous ayons à notre disposition. Mais disons que il y a dans l'empire islamique deux exceptions, ou deux choses particulièrement frappantes qui méritent l'examen. La première chose, c'est la rapidité des conquêtes, bien entendu. La deuxième chose est toute différente.
C'est toujours important, pardon, Gabriel Martinez-Groux, de préciser ou d'expliquer pourquoi cette célérité ou cette promptitude ou la rapidité des conquêtes.
Alors voilà, la rapidité des conquêtes est le point sur lequel on met généralement l'accent, c'est l'exception, ou ça paraît être l'exception par excellence dans le cas de l'Empire.
Parce qu'il y a quelque chose de paradoxal. On dit d'un côté que ces Arabes n'avaient pas de soldats textes, il n'y avait pas de garnison importante, qui n'était pas rompue aux techniques guerrières, etc. Et en même temps, on dit que l'expansion fut fulgurante. Alors comment l'explique-t-on?
Alors voilà, heureusement nous avons Ibn Khaldoun, parce que c'est lui qui t'explique. Je ne connais qu'une seule explication, c'est la sienne, Honnêtement, une seule explication convaincante, c'est la sienne. Il explique que ces conquêtes n'ont pu avoir lieu que parce qu'il existait déjà des empires, c'est-à-dire l'Empire romain, l'Empire perse en l'occurrence aussi, hein, l'Empire sassanide, mais surtout l'Empire romain. Pourquoi ? Tout simplement parce que la politique des empires consiste à désarmer leur population. Le but de l'Empire, c'est la paix. Le but de l'Empire, c'est l'accumulation, précisément dans la capitale, comme nous le disions tout à l'heure, de ce capital en effet primitif. C'est une accumulation primitive du capital, comme aurait dit Karl Marx, généralement dans la capitale, qui permet le déploiement des compétences grâce à l'existence d'une demande importante, donc d'une population importante dans la capitale. Et l'ensemble de ce processus dépend de l'impôt. Tout simplement. Or, la levée de l'impôt et donc l'existence de la capitale, donc l'existence des progrès économiques, est conditionnée par le désarmement des populations. Seules des populations désarmées payent l'impôt. Des populations armées ne payeraient pas l'impôt et bloqueraient donc automatiquement le mécanisme de déploiement économique, le mécanisme de progrès économique,
d'accumulation des richesses,
de richesses et des compétences. Et donc, les empires désarment leur population. Et parce qu'ils désarment leur population, évidemment, ils se rendent vulnérables à ce que nous appelons, nous, dans notre histoire occidentale, les invasions barbares. L'Empire romain a subi des invasions barbares. Et donc, au départ, on peut considérer les invasions arabes comme des invasions barbares. Les Visigoths n'étaient pas mieux armés que les Arabes, ils n'étaient pas plus nombreux, les Ostrogoths et les Francs non plus, et ils ont triomphé de populations romaines bien plus nombreuses, mais qui avaient été profondément désarmées psychologiquement et matériellement par des siècles d'autorité impériale, tout simplement.
Et cela s'applique aussi aux Sassanides et aux Byzantins.
Et cela s'applique aussi, encore mieux, aux populations de l'Orient méditerranéen, qui ont été désarmés probablement avant même celles de l'Occident méditerranéen. Donc voilà. Donc c'est voilà une première explication donnée. Mais le problème en histoire, c'est qu'une fois que vous avez donné une explication, le problème se déplace un peu plus loin parce que il y a quelque chose alors là qui ne va pas du tout. C'est que en général, les entre guillemets barbares, mettons les Francs, les Visigoths, etc., adoptent la civilisation de ceux qu'ils et la religion de ceux qu'ils ont conquis. Les Francs ont adopté la religion chrétienne des populations gallo-romaines qu'ils avaient conquis et ils ont adopté la langue, cette espèce de latin un peu dialectalisé que nous appelons le français, ou bien pour les Visigoths l'espagnol, etc. Nous parlons toujours la langue de l'Empire, c'est-à-dire le latin, mais très 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 déformé, ça s'appelle aujourd'hui le français. Et c'est pas du tout ce qui se produit dans le cadre des invasions arabes. Dans le cas des invasions arabes, ce sont les Arabes qui imposent et leur langue et leur religion. Et ça, à mes yeux, c'est le véritable problème. C'est le seul exemple. C'est le seul exemple. La Chine a connu nombre d'invasions barbares, nombre de dynasties d'origine étrangère, presque toutes même étaient d'origine étrangère. Mais ces dynasties, les Mandchous, les Mongols, les dynasties turques de l'Ouest, les Tibétains, n'ont jamais imposé leur langue à l'Empire chinois. Le chinois est resté, bien sûr, la langue de l'Empire, et ce sont au contraire les barbares qui ont été assimilés par l'Empire. Là, ce sont les, entre guillemets, barbares, c'est-à-dire les Arabes, qui ont assimilé l'Empire, les populations de l'Empire, et qui ont imposé, j'entends pas nécessairement par la force, mais qui ont fait que leur langue et leur religion sont devenues la langue et la religion de ces très vieilles terres de civilisation, la Perse, la Syrie, l'Égypte, l'Irak surtout, la Mésopotamie, qu'ils envahissaient et dont ils prenaient le contrôle. Je crois que c'est là qu'est la vraie question.
Pour aller dans votre sens, on verra que, pour dire que c'est un cas unique ou singulier ou posant problème, parce que les Mongols, quand ils viendront prendre saccager Bagdad, ils repartiront musulmans.
Voilà, donc, absolument. C'est une invasion barbare normale, si j'ose dire. Terrifiante, mais normale.
Et cruelle pour le dernier calife abbasside, le 10 février 1258.
C'est ça.
Alors, l'idée de l'Empire commence, donc c'est bâti comme ça. Est-ce qu'on peut parler d'un début d'Empire avec les Omeyyades ou pas encore? Ou il faut attendre l'empire abbasside.
Non, je crois qu'on peut parler en effet d'empire. Enfin, je commence le livre dès la mort du prophète. Hein. J'avoue, pour éviter l'ensemble des études très très nombreuses qui ont été consacrées à la vie du prophète et à ses intentions, je commence au calife, hein, au premier calife, Abou Bekr et Omar, qui est le grand calife des conquêtes. Donc, je crois qu'on peut déjà parler d'empire en ce sens que vous avez ce qui caractérise pour Ibn Khaldoun l'empire, des populations très largement désarmées, habituées au mécanisme impérial, donc habituées à la levée de l'impôt, et des populations conquérantes et dominantes, c'est-à-dire qui sont extrêmement minoritaires. Bien entendu, les Arabes représentent peut-être 1 million, 1 200 000, 1 300 000 personnes, tout compris. Hein.
Pour appliquer tout de suite la leçon, pour voir si j'ai bien compris ou pas, dans un autre registre, les 4 premiers califes, qu'on appelle maintenant ou plus tard les califes de la rectitude spirituelle, les mieux guidés de l'orthodoxie, ne s'appelaient pas comme ça de leur vivant.
Non.
Ils ne savaient pas qu'on allait les appeler comme ça non plus.
Ils ne savaient pas qu'on allait les appeler comme ça.
C'est un peu comme l'histoire de la tragédie, on sait la fin.
On sait la fin.
Et de leur vivant,
absolument. Absolument.
Donc, il n'y a aucune raison de sacraliser leur œuvre non plus.
Non. Il n'y a pas de raison de sacraliser leur œuvre, sinon que je crois qu'une des grandes clés de l'histoire de l'islam, ça a été la rapidité de la dissociation des conquérants. C'est-à-dire que les guerres civiles sont intervenues très très tôt dans l'histoire de l'islam, donc une partie, alors ça a deux conséquences majeures, d'abord qu'une partie des Arabes ont été désarmés, donc qu'ils ont pu se mêler aux populations soumises et ainsi faire de l'arabe une langue sédentaire, c'est-à-dire la langue de ceux qui travaillent et non pas de ceux qui gouvernent et qui commandent. Hein. Et donc c'est probablement, étrangement, à cela que l'expansion et l'épanouissement d'une civilisation arabe et islamique est redevable, hein. C'est-à-dire que contrairement aux barbares ordinaires, hein, qui s'occupent des affaires du pouvoir, cependant que leur sujet s'occupe de toutes les activités de la production, y compris de la production intellectuelle, les Arabes, ce sont une partie des Arabes, c'est très très tôt tourné vers la production, y compris vers la production intellectuelle, parce qu'ils ont été exclus du pouvoir. C'est un point très important. Et le deuxième point, c'est aussi une affaire d'exclusion du pouvoir, hein, mais c'est la construction du sunnisme au IXe siècle surtout, hein, avec Ibn Hanbal à Bagdad. La construction du sunnisme est un fait profondément urbain. Alors, ce qui est assez curieux, c'est qu'encore aujourd'hui, en particulier peut-être dans les milieux chiites, mais enfin aussi dans beaucoup de milieux occidentaux, etc., on tient les sunnites pour, oh, vous savez, ce sont les bédouins qui ont conservé les usages des premiers âges de l'islam. C'est ce que les sunnites, en effet, ont cherché à faire croire. Mais en réalité, le sunnisme est évidemment une création urbaine. Il n'y a pas de création plus urbaine que le sunnisme d'Ibn Hanbal, qui est un juriste de Bagdad. Et d'une manière générale, le sunnisme a gagné par ces voies-là, c'est-à-dire en s'étendant peu à peu à l'ensemble des populations cléricales de toutes les grandes villes. C'est par là que c'est par la sédentarité, non pas par la violence des armes, hein, mais par la sédentarité, par le contrôle du monde intellectuel, que le sunnisme s'est petit à petit imposé. Et il s'est imposé alors en sacralisant les origines contre l'État, contre ce que voulait faire l'État, contre les évolutions que l'État, et en particulier le fameux calife Al-Mamoun, voulait apporter à la religion, aux dogmes, etc., au contrôle que l'État voulait exercer sur le dogme et sur le droit. Le sunnisme le refuse, et il refuse aussi, bien entendu, le contrôle que l'imam chiite prétendait, de la même façon, exercer, moins d'ailleurs sur l'État ou sur les affaires quotidiennes que sur le dogme, alors là, bien sûr.
Alors, si vous voulez bien, Gabriel Martin, on revient à la naissance donc de l'empire. C'est moi qui vous ai interrompu. En tout cas, on était à la genèse de l'empire omeyyade. Est-ce qu'on peut dire que ça naît avec le coup de force de Muawiya, ou il faut attendre plutôt son fils Yazid Ier? Est-ce que l'empire commence en 661 ou les guerres ou les conquêtes avec les califes dits de la rectitude? Et comment ça s'est un peu instauré, l'empire s'est-il installé?
Alors, dès le Moyen-Âge, et je pense que les auteurs du Moyen-Âge n'avaient pas tort, parce que très souvent, et contrairement à ce que croit l'historien, les hommes du Moyen-Âge, les hommes de l'époque voient ce qu'ils sont en train de vivre. Dès le Moyen-Âge, on pointe souvent vers la personnalité d'un des descendants de Mouawiya, un neveu cousin, qui s'appelle Abdelmelik, qui règne donc entre 685 et 705.
Pour 20 ans.
20 ans.
C'est lui qui a ordonné, qui a fait construire
le dôme du rocher. Oui, absolument. Et donc, c'est son fils qui va faire construire la mosquée des Omeyyades de Damas et aussi la mosquée de Médine, qui malheureusement est aujourd'hui en plus mauvais état. Mais la mosquée des Omeyyades nous demeure. Donc, Abdelmelik est important sur deux points, et c'est caractéristique de voir que ces deux points sont liés. Hein. Le premier point, c'est la victoire d'une partie des Arabes sur une autre, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak qui lui était hostile, des Arabes d'Irak j'entends, hein, qui lui était hostile à l'avantage des Arabes de Syrie. Et le deuxième point, c'est avec l'aide de son gouverneur d'Irak qui règne sur l'Irak, le fameux Al-Hajjaj, le fameux et le cruel Al-Hajjaj qui règne sur l'Irak comme un tyran, effectivement, puisque la majorité des Arabes d'Irak sont contre lui, bien sûr, ils sont contre le régime, contre Abdelmelik. Donc Al-Hajjaj règne avec une garnison syrienne, hein, et une ville qu'il crée, d'ailleurs, une ville bastion qu'il crée pour abriter cette garnison syrienne, la ville de Wasit, entre Wasit, parce qu'elle est entre les deux, hein, entre Basra et Koufa, qui sont aussi hostiles l'une que l'autre, enfin surtout Koufa. Et avec Al-Hajjaj, Abdelmelik, en même temps qu'il soumet l'Irak, fait de l'arabe la langue de l'empire. Et frappe les premières monnaies, en effet, en arabe. Et donc, ça, c'est, je pense que l'union des deux n'est pas un hasard. Hein. C'est parce que un certain nombre d'arabes, ceux d'Irak en particulier, ont été ramenés à la sédentarité, au désarmement, que Abdelmelik peut construire ce qui n'est pas seulement un pouvoir, mais un empire, c'est-à-dire une langue, une fascination, fondamentalement. Un empire, c'est une fascination.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Nous parlons aujourd'hui avec le professeur Gabriel Martinez-Gros de l'Empire islamique. Ce n'est pas l'État islamique, c'est l'Empire islamique. Et le professeur Gabriel Martinez-Gros a dirigé avec Lucette Valency l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman, historien, professeur d'histoire du monde arabe et du monde musulman à l'Université Paris-Ouest Nanterre. Pour cette dernière partie, si vous voulez bien, professeur, alors que vous nous avez dit que les deux gros faits majeurs du règne d'Abdelmelik ibn Marwan étaient le fait de battre monnaie, de frapper un monnaie à son effigie.
Oui, absolument.
Et le fait de... Alors, dit-on qu'avec son gouverneur, il y avait l'histoire des points diacritiques.
Absolument.
Et
absolument.
D'instaurer la langue arabe comme la langue...
De l'Empire.
De l'Empire. Unité de langue et unité de monnaie, c'est déjà un début de mondialisation, en processus, en devenir.
Absolument.
Ça va se consolider avec l'Empire d'après, qui est l'Empire abbasside.
Alors notez quand même c'est ce que j'essaye de noter et de dire je pense que j'ai raison, évidemment, puisque je le dis, c'est que l'Empire se construit là où se trouvent les vaincus. C'est-à-dire, ce sont les Arabes d'Irak qui vont d'emblée, hein, dès l'époque Omeyyade, construire l'Empire. Les quelques données, malheureusement trop peu nombreuses, qu'on a par exemple sur le revenu fiscal de l'Empire, montrent que dès l'époque Omeyyade, c'est l'Irak qui constitue la source principale de revenus, et pour cause, évidemment, puisque les Arabes y sont totalement désarmés, c'est-à-dire que l'État a saisi, a confisqué les ressources que les tribus arabes établies en Irak depuis la conquête, jusque-là, prenaient à leur compte et prenaient pour elles. Donc l'Irak est en plus la vieille Mésopotamie, qui était déjà le cœur de l'Empire sassanide, de l'Empire perse sassanide, car la capitale de l'Empire perse sassanide n'était pas en Iran, mais en Irak, hein, c'est la ville de Ctesiphon,
L'Irak actuel.
Dans l'Irak actuel, oui, c'est ça. Donc, ce très riche terroir rend donc déjà, d'autant plus qu'il est totalement désarmé. C'est une application de la théorie d'Ibn Khaldoun. Hein, je veux dire, vous désarmez les populations, et surtout les populations belliqueuses qui avaient conquis à peine deux générations auparavant. Hein, 636, la conquête, 700, le désarmement. Hein, vous désarmez ces populations, et naturellement, il en sort beaucoup d'argent. Hein, parce que c'est vous qui prenez l'argent que ces populations, dont ces populations jusque-là disposaient. Et donc, d'emblée, c'est l'Irak hein, qui est le centre de l'Empire. Et avec les Abbassides, à partir de 750, c'est officiel. Oui. Hein, c'est-à-dire que c'est Bagdad qui devient la capitale de l'Empire au détriment de Damas.
Alors, il n'y a pas aussi un paradoxe à dire que les empires tendent à s'agrandir et en dépit de leur étendue ou de leur vastitude, mais avec les relais postaux, les moyens de communication, ils rapetissent aussi
l'espace.
C'est un peu aussi l'effet de la mondialisation de nos jours qui dit que nous sommes dans un village planétaire. Et ça me fait rappeler cet extrait de Médée de Sénèque, quand il disait « Nos ancêtres ont connu le temps de l'innocence. En ces temps-là, le monde était multiple. Ailleurs était vraiment un ailleurs. Et voilà que le vaisseau thessalien l'a réduit à n'être plus qu'un. La mer est bouleversée, les obstacles sont surmontés, plus rien n'est de l'ordre de jadis. » Qu'allons-nous dire de nos jours ? Mais entre les deux, il y avait l'Empire abbasside qui fait, et puis par la suite, même après son morcellement, la langue arabe va être depuis Saragosse à l'ouest jusqu'aux confins de l'Indus comme la langue véhiculaire du savoir. Donc
absolument.
Unité de langue.
Absolument. Une unité de langue au moins des savants, bien entendu. Il est probable qu'on parle des multitudes de dialectes à l'intérieur de cet immense espace. Mais effectivement, l'arabe, non seulement est la langue de l'Empire, mais c'est la langue de l'Empire central. Ça, c'est un point important dans l'histoire de l'Empire abbasside. C'est que si vous considérez le monde, l'ancien monde, hein, l'Amérique n'existe pas hein, dans l'esprit de des hommes de ce temps-là.
Pour eux, du côté de l'Atlantique, on est dans la mer des ténèbres.
Voilà.
On ne sait pas ce qu'il y a derrière.
Voilà, on ne sait pas et on pense qu'il n'y a rien. Enfin, on pense que c'est l'océan qui entoure le monde, le Mohit, hein, vous savez. Et donc, si vous considérez cette carte ou ce qu'ils en savaient, ben, l'islam est à peu près au centre. Hein, il touche à la Afrique, il touche à l'Europe, il touche à l'Inde et il touche à la Chine. Hein. Il est à peu près central et honnêtement, on peut dire que des grands empires qui se sont succédés jusqu'à la modernité, l'islam est celui qui a le mieux connu le monde ou qui a montré le plus de curiosité pour le monde. C'est-à-dire que innombrables sont les divisions des peuples et les généalogies des peuples, y compris chez Ibn Khaldoun, d'ailleurs, qui s'y est essayé lui aussi, mais comme des dizaines d'autres avant lui. Hein,
et on le voit dans la cartographie de l'Idrissi.
L'Idrissi, bien entendu. Hein. Il y a une véritable curiosité. C'est assez curieux parce que ça contredit en partie, mais il est bon d'être contredit et de se contredire soi-même quelquefois. Ça contredit en partie la quasi-définition de l'Empire que je donnais au tout début, c'est-à-dire que l'Empire est son propre monde. Il ferme ses frontières, il n'y a plus rien au-delà. Il n'est plus intéressé. Ça n'est pas intéressant. Ce qui se passe au-delà des frontières, c'est la barbarie, hein, tout simplement. Et donc, ça n'est pas une véritable humanité. Ça n'est pas tout à fait, et même pas du tout, même à l'apogée abbasside, le cas de l'Empire islamique. Il y a un intérêt qui tient peut-être à ce que l'Empire ne repose pas sur un sur le socle ou sur les ruines d'un empire, l'Empire romain par exemple, mais de deux empires, hein, c'est-à-dire l'Empire perse et l'Empire romain. Alors ce sera politiquement une de ses faiblesses, parce que finalement, assez rapidement, au bout de 3 siècles, n'exagérons rien, mais enfin, assez rapidement pour l'histoire d'un empire, la ligne de fracture va réapparaître sur l'Euphrate, hein, entre ce qui a été perse et ce qui a été romain à l'intérieur de l'Empire islamique. Mais ce sera en même temps probablement un de ces gains de civilisation, c'est-à-dire que il y a deux. Et quand vous en avez deux, vous examinez assez attentivement le monde pour en découvrir 3, puis 4, puis 5 manières de voir le monde, et que l'islam a hérité de toutes celles-là. Hein, il y a des livres extraordinaires, évidemment, dans l'islam, dont malheureusement, je ne voudrais pas tromper le lecteur, je n'ai pas eu le temps de parler dans mon livre, comme le livre des chronologies. Les signes qui demeurent, les traces qui demeurent des siècles écoulés, oui. de Biruni, qui est un livre sur l'ensemble des calendriers
du monde. Ça vous donnera la possibilité de le
dire.
Gabriel Martinez-Gros, pour les quelques secondes qui nous restent, peut-être un mot, quitte à ce que nous y reviendrions une autre fois, sur l'art de vivre, l'hédonisme, l'émerveillement, le raffinement, le plaisir aussi qui caractérisait cet empire d'une manière générale.
Ça caractérise l'empire.
Oui.
Ça caractérise l'empire, hein, tout simplement. C'est-à-dire que cet extraordinaire raffinement, à partir du moment où l'arabe devient la langue de l'empire, c'est nécessairement une langue raffinée. Hein, et d'autant plus raffinée qu'elle est parlée par des gens et qu'elle est parfois construite, quand il s'agit des grammairiens, par des gens qui ne sont pas d'origine arabe. Hein, en particulier les grammairiens persans, hein, Ibn Khaldoun, mais d'autres. Sibawai et Al-Khalil, etc., sont souvent des persans d'Iran, soit des persans d'Irak, hein, puisqu'ils étaient nombreux, évidemment, dans l'Irak, ce que nous appelons l'Irak sassanide avant l'Empire arabe. Mais oui, bien sûr, oui.
Merci infiniment, merci beaucoup.
C'était
Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons reçu le professeur Gabriel Martinez-Gros pour nous parler de l'Empire islamique du 7e au 11e siècle tout particulièrement, même si la discussion a été on ne peut plus riche et très fascinante, passionnante parce que l'homme est passionné aussi. Vous retrouverez, chers amis auditeurs, les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Éric Boisset et la réalisation est assumée par l'ami Franck Lina.
أيام وسنين بتمر صفيت باللحالي وعرفت طعم المر طعم المر لحالي كلمات بتمر على بالي بتمر على بالي كلمات لو بطلع بيدي أغير العالم كان بهدي من كل قلبي أعطيها هدية لكل العالم علمتني الناس بتموت بس الحب
السلام يا روحي يا سلام، آه على السلام.